Pratique. Observateur et observé. Chers amis, bonjour. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier une des clés qui, dans l'enseignement gnostique, est très importante pour notre développement intérieur, pour notre développement spirituel. Il s'agit de la technique de nous diviser en observateur et observé. Il est très important que nous dirigions notre attention vers l'intérieur, vers ce que nous sommes, dans notre univers intérieur, dans notre univers psychologique avec, pour objectif, de découvrir qui nous sommes vraiment. Dans tous les peuples du monde et dans toutes les cultures, les grands initiés ainsi que les grands maîtres ont insisté sur le fait que si nous voulions trouver le bonheur, la vérité, nous devrions chercher à l'intérieur de nous-mêmes. La gnose donne des procédés, des techniques, des clés qui nous permettent de nous autoconnaître. L'autognose ou l'autoconnaissance est donc l'objectif primordial de ces études. Nous avons besoin de clés qui nous permettent de connaître cet univers intérieur. Et quand nous parlons d'univers intérieur, nous ne parlons pas de quelque chose au sens figuré, mais véritablement de tout un univers intérieur que nous devons découvrir. Et une de ces clés est de nous placer en observateur et observer. Nous devons nous servir de certaines techniques, de certains procédés qui vont nous permettre de connaître toutes nos pensées, tous nos sentiments, tout ce qui vit dans notre intérieur, avec la finalité de pouvoir réussir à atteindre cette félicité, cette paix, cette liberté que nous recherchons tant. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Nous allons parler de ces techniques. Nous commencerons par expliquer la clé de l'auto-observation psychologique en disant qu'il existe une doctrine, un enseignement ancien qui a été très répandu en son temps, dans l'ancienne Égypte et au Tibet. Cette doctrine s'appelle la doctrine des nombres. Cette doctrine déclare que, et cela est vraiment très intéressant, et elle est fondamentale dans tous les livres sacrés du monde. Si nous lisons le Popol Vuh, nous la trouverons. Elle se trouve également dans la Bible. Nous la trouvons aussi dans le Coran, la Bhagavad Gita, les Védas ou le Mahabharata. Par contre, les cultures égyptiennes et tibétaines se spécialisèrent dans la connaissance de cette doctrine des nombres. Que signifie cette doctrine des nombres ? Que nous apprend-elle ? Eh bien, elle dit que nous ne sommes pas seulement un individu, que nous ne sommes pas une seule personne. Parce que nous pensons tous n'être qu'une seule personne. Nos parents nous ont donné un nom. Nous avons un corps physique, ce qui nous donne un sentiment d'unité, mais en réalité, nous ne sommes pas un, mais beaucoup. Imaginons, chers amis de l'Institut culturel Quetzalcoatl, qui êtes présents ici, et qui participe à cette pratique que nous sommes une ville, une grande ville, avec de nombreux habitants. Une ville avec beaucoup de quartiers, des zones très belles, avec des maisons splendides, agréables. Mais comme dans toutes les villes, il y a aussi des endroits qui ne sont pas aussi beaux ni agréables. Dans les villes, il y a des endroits où on ne peut pas se rendre la nuit, parce qu'ils sont très dangereux. Des endroits où se trouvent des voleurs, des assassins, des personnes très violentes, etc. Et même il y a des endroits où l'on ne peut pas aller même durant le jour. Et bien de même, mes chers amis, à l'intérieur de nous, il y a aussi énormément d'habitants. Nous ne sommes pas un seul individu. Nous sommes un ensemble de beaucoup d'individus. Comprendre cela nous mènerait à avancer un peu sur ce chemin vers la sagesse, vers la vérité. Et si nous ne nous rendions pas compte que c'est ainsi, cela nous empêcherait d'avancer sur ce chemin vers l'absolu, vers l'incréé, vers la sagesse immortelle. Nous devons comprendre et nous rendre compte que nous sommes beaucoup. Si nous réfléchissons un peu sur nos contradictions intimes, nous allons découvrir précisément que nous sommes en réalité plusieurs. Dans l'Égypte ancienne des pharaons, on appelait ces nombres les démons rouges de Seth. Et ces démons rouges de Seth n'appartiennent pas au passé. Ils se trouvent toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Après avoir imaginé cette ville remplie d'habitants, rendons-nous compte que cette ville, c'est nous. Et toutes ces personnes qui y vivent sont nos défauts psychologiques et nos moi. Maintenant, imaginons un bateau. Un bateau avec beaucoup de passagers. Ce bateau, c'est notre corps physique. Et ces passagers sont nos moi. On les appelle moi car un moi, en cet instant, domine notre mental, domine nos sentiments, domine nos actes. Nous sommes ce moi. Mais ce moi-même, soudain se retire et est remplacé par un autre moi, un autre défaut, un autre moi psychologique qui n'a certainement rien à voir avec le moi antérieur. Nous jurons un amour éternel à une personne et plus tard, ce moi qui avait juré cet amour éternel est remplacé par un autre moi qui n'a rien à voir avec la promesse faite et la personne qui se croyait aimée est très déçue. Il existe donc beaucoup de moi. C'est la doctrine des nombreux moi. Imaginons ce bateau. Il représente notre corps. Et ses passagers sont nos moi. Chacun de ces moi s'empare du gouvernail de ce bateau. Un exemple. Une personne luxurieuse conduira le bateau vers des endroits où il y a des femmes, des maisons closes, etc. Et ensuite, ce moi sera remplacé par un autre moi. Un moi rempli de convoitises. Qui conduira le bateau vers des endroits où il y a de l'argent, des affaires à conclure, etc. Et voilà à quoi nous passons notre temps. Nous ne sommes même pas le même moi, ne serait-ce qu'une demi-heure. De très nombreux mois passent dans notre corps physique en le contrôlant. Et c'est pour cela que nous sommes pleins de contradictions. C'est pour cela qu'existent en nous de nombreuses pensées bien différentes. Car chaque moi a ses sentiments propres, ses désirs propres. Chaque moi psychologique, chaque moi-même a ses caractéristiques propres et il faut les observer, il faut les connaître parce que les problèmes dans notre vie ont leur origine dans l'un de ces moi, dans tous ces moi psychologiques. Tous les problèmes que nous avons, le manque de travail, les disputes avec notre conjoint, l'incompréhension que nous avons avec nos enfants ou nos parents, les conflits que nous avons au travail, les maladies, tous nos problèmes dans la vie ont leur origine dans tous ces moi. Les Mayas le disaient bien. Les seigneurs de Xibalba, qui sont une autre représentation de ces moi, sont la cause de nos maladies, de la misère, de la guerre, de la douleur et de la souffrance. Voilà ce que disent les Mayas dans le Popol Vuh. Il faut donc travailler avec ces moi. Il faut diriger notre attention vers notre intérieur, vers nos pensées, connaître nos sentiments. Il faut diriger notre attention vers tout cela, parce que c'est vraiment triste à dire, mais nous ne nous connaissons pas du tout. Nous sommes capables de connaître notre voisin plus que nous-mêmes. Nous pouvons connaître nos parents plus que nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. En fait, nous nous méconnaissons presque totalement. Beaucoup de vertus que nous pensons avoir, nous ne les avons pas. Et de nombreux défauts que nous ne pensions pas avoir, eh bien oui, nous les avons. Il faut diriger notre attention vers notre intérieur. Tout ce qui se trouve autour de nous, notre environnement, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, est le résultat de ce que nous possédons intérieurement. Nous voulons que cessent nos problèmes? Nous voulons que nos difficultés s'arrêtent? Nous ne voulons plus tomber malade. Nous voulons plus de compréhension dans notre foyer. Nous voulions qu'il y ait plus d'équilibre financièrement, que nos relations soient plus harmonieuses dans notre famille et dans notre travail. Nous voulons tout cela? Eh bien, dirigeons notre attention vers notre intérieur. C'est là que se trouve la solution. Et pour ce faire, nous avons l'auto-observation psychologique. Il existe malheureusement trois types de moi qui nous empêchent de nous auto-observer, qui nous empêchent de nous connaître et que nous avons tous. Ici, dans la gnose, il est important de signaler que beaucoup de termes employés ont des significations différentes de celles que leur donne la psychologie la médecine et la science matérialiste. Ces termes que nous employons dans la gnose ont plutôt une signification ésotérique, et nous allons vous demander, s'il vous plaît, à vous, étudiants, à vous, universitaires, à vous, médecins, psychologues, qui assistez à nos conférences, de ne pas confondre cette terminologie gnostique avec celle que l'on nous apprend à l'école ou dans les universités. La terminologie gnostique est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ésotérique. Le mot ésotérique vient de esiotheo, qui veut dire « dedans ». L'ésotérisme n'est pas la lecture des cartes du tarot ou les petites bougies. Tout cela ne sont que des bêtises, que des supercheries. Mais ce n'est pas de l'ésotérisme. Nous faisons cet éclaircissement car nous allons expliquer les trois types de moi qui nous empêchent de nous auto-observer, de diriger notre attention vers notre monde intérieur. Nous avons en premier lieu la mythomanie. La mythomanie, généralement, est considérée comme l'art de mentir. Mentir à chaque instant et à tout moment. Mais dans la gnose, la mythomanie est un délire de grandeur. Si nous analysons étymologiquement la racine de ce mot, il vient de mytho, qui veut dire fabuleux, grand, fictif. C'est cette manie de croire que l'on est quelqu'un que l'on n'est pas. On pense que l'on est un dieu, on a des délires de grandeur. Beaucoup d'entre nous qui étudions d'autres types de connaissances, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, si nous ne nous observons pas, nous pouvons tomber dans ces délires de grandeur. Croire que nous sommes des initiés, des maîtres, des dieux, voilà ce qu'est la mythomanie. C'est l'un des défauts les plus graves sur lequel nous devons travailler pour pouvoir nous auto-connaître. Si nous croyons être un dieu ou un maître, jamais nous allons pouvoir nous connaître parce que l'on se considère déjà comme étant le meilleur. Nous avons ensuite l'égolâtrie. Si nous analysons ce mot, il vient de « ego » et pour la gnose « ego » se réfère à nos défauts psychologiques et « latrie » signifie culte, adoration. C'est l'adoration du moi, du moi-même, de l'ego. C'est le fait de croire à un moi permanent, un moi supérieur ou un moi divin, un alter ego qui veut dominer un moi inférieur. Tant que nous croirons cela, tant que nous rendrons un culte au moi, nous ne pourrons jamais pouvoir nous auto-observer. Nous devons absolument comprendre qu'il n'existe pas de moi divin, mais qu'il existe des milliers de défauts psychologiques à l'intérieur de nous-mêmes. Des milliers, chers amis. Virgile, le poète de Mantoue, disait très justement « Même si nous avions 1000 langues pour parler et un palais d'acier, nous ne pourrions pas énumérer tous les défauts psychologiques que nous possédons dans notre intérieur. » Vous voyez, ils sont donc très nombreux. Nous pensons à tort que nous possédons seulement 2 ou 3 défauts, mais nous en avons énormément. Le troisième type de défaut est la paranoïa. Le mot paranoïa, officiellement, à l'université, en psychologie ou en médecine, se comprend comme étant un délire de persécution. Mais dans la gnose, il a une signification plus profonde, plus intéressante. On la comprend comme le délire de penser que tout se concentre en nous. On pense tout connaître, on est pédant, et si on a lu beaucoup de livres, on pense que l'on est très cultivé. On est autosuffisant. On pense que l'on est ineffable. On fait preuve d'un grand orgueil mystique par nos vertus. On ne sait pas voir le point de vue de l'autre. Il faut donc travailler sur ces 3 défauts pour réussir à diriger notre attention sur ce que nous sommes vraiment. En quoi consiste l'auto-observation? L'auto-observation, c'est observer nos sentiments, nos pensées, nos actes, au lieu de diriger notre attention sur notre voisin, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos collègues ou nos patrons, de façon exagérée, en voyant tous leurs défauts. Non, il faut diriger notre attention sur nous-mêmes, dans notre monde intérieur, vers nos pensées et nos sentiments. La plus grande joie d'un étudiant gnostique, c'est de découvrir un nouveau défaut, parce qu'alors on peut le désintégrer. Nous allons pour cela nous diviser en deux, en observateur et en observé. L'observateur va être notre conscience, et l'observé, ce sera nos pensées, nos sentiments, nos actes et l'ensemble des défauts psychologiques que nous possédons dans notre intérieur. Voilà ce qu'est l'auto-observation. Cette pratique se fait durant toute la journée. Elle se fait lorsque nous marchons, lorsque nous mangeons, lorsque nous travaillons, lorsque nous discutons avec des amis ou des collègues, lorsque nous regardons la télévision. Elle se fait à chaque instant, à chaque moment de notre quotidien. Si on fait cette pratique quotidiennement, on va entrer sur le chemin de l'autognose. On va commencer à découvrir et voir que l'on n'est pas ce que l'on pensait être. On va se rendre compte de qui on est vraiment et alors oui, nous aurons ainsi la possibilité de changer. Nous allons faire cette pratique en étant relaxés et avec les yeux fermés. Mais il faudra la faire à chaque instant de notre vie, tous les jours. On va la faire maintenant en étant bien relaxés pour la comprendre beaucoup mieux. Nous allons donc vous demander, s'il vous plaît, de vous installer bien confortablement, de fermer les yeux. Nous allons relaxer notre corps physique en unissant notre imagination avec notre volonté dans une vibrante harmonie. Relaxons nos pieds. Les orteils, la plante des pieds, les chevilles, il faut être comme ces enfants nouveau-nés couchés dans leur berceau. Sans aucune préoccupation, sans rien analyser, sans rien attendre de spectaculaire. Tout simplement nous cherchons à bien nous relaxer, c'est tout. Relaxons nos jambes. Les genoux, les cuisses. Relaxons tout notre corps peu à peu, avec patience. Relaxons chaque partie de notre corps. Concentre-nous sur chaque partie de notre corps et relaxons-la. Libérons-nous de toutes les tensions, de toute cette agitation de la journée, de toutes nos anxiétés et préoccupations. Nous dédions toute notre journée à notre personnalité, à l'extérieur. À présent, même si ce n'est que pour quelques minutes, dédions ces instants à notre être, à notre intérieur, au mystique. Il devrait y avoir un équilibre entre le matériel et le spirituel. Nous allons le faire pour quelques minutes, en nous dédiant à notre intime, à notre esprit, à notre intérieur. Bien. Nous avons relaxé nos pieds et nos jambes. Passons aux fesses. Ceinture. Organes créateurs. Et en même temps que nous relaxons notre corps, devenons conscients de cet instant. Essayons d'être ici et maintenant. Pas dans le futur en pensant que nous allons apprendre à méditer et que nous allons éliminer tous nos défauts, que nous allons devenir meilleurs, non. Nous sommes ici. N'allons pas non plus dans le passé. Restons ici, dans cet instant, dans ces secondes. Nous devons apprendre à vivre cela. Relaxons notre ventre. La poitrine. Le dos. Chaque partie de notre corps, nous la relaxons avec beaucoup de patience. Notre respiration est tranquille. Nous avons un peu sommeil, c'est normal. Et si nous nous endormons, ce n'est pas grave. Peu à peu, nous contrôlerons le sommeil. Relaxons nos épaules. Les bras et les mains. Nous nous libérons peu à peu de toutes les tensions de la journée. Nous relaxons notre corps physique. L'unique chose que nous voulons, c'est un moment de calme, de tranquillité. Ne recherchons pas à ressentir des énergies ou des petits échauffements, ni voir des petites lueurs de couleurs, ni apercevoir des petits nains ou des petits vieillards, etc., etc. Non, non, rien de tout cela. Nous cherchons simplement à être dans un moment de paix, tranquille, calme. Relaxons notre cou, notre nuque. Relaxons toute notre tête, le front, les yeux. Le nez, les joues, les oreilles, la bouche, le menton. Relaxons toute notre tête. Maintenant que nous avons bien relaxé tout notre corps, concentrons-nous sur notre être, notre esprit, notre intime, notre monade divine, notre chesed de la Kabbale hébraïque. Concentrons-nous sur notre Père qui est en secret, comme le disait le Maître Jésus. Et souvenons-nous que nous avons chacun notre propre Père particulier en nous. C'est une émanation de la divinité. Concentrons-nous sur lui dans cet état de relaxation et le rappel de soi. Dirigeons notre attention dans notre monde intérieur. Essayons d'observer non pas avec notre mental, mais avec notre conscience, nos pensées. Essayons d'observer les pensées qui surgissent en nous, les souvenirs, les affections, les sentiments, les ressentiments. Observons tout ce qui surgit dans notre monde intérieur. Ce sentiment qui surgit, ce souvenir, ce ressentiment, cette pensée, il faut le capturer, il faut l'observer. Il faut placer toute notre attention dans ce monde intérieur. Nous entendons peut-être un bruit dans la rue, un camion, une moto, une automobile, et voyons comment réagit notre mental en entendant ce bruit. Nous ressentons peut-être de l'anxiété ou une préoccupation, un souvenir. C'est cela qu'il faut capter. Essayons d'observer notre monde intérieur. Comment nous réagissons aux impacts venant de l'extérieur? Comment surgissent les pensées, les sentiments, les souvenirs? Nous sommes très habitués à voir le monde extérieur. Mais maintenant, il s'agit d'observer ce qu'il se passe dans notre monde intérieur. Nous rendre compte comment entrent ces moi, le moi de l'amour-propre. Nous nous apprécions et nous nous aimons beaucoup nous-mêmes. Le moi de la convoitise. Nous voulons une voiture dernier modèle. Nous voulons une belle maison. Nous souhaitons avoir l'intelligence du voisin. Nous désirons la femme de notre ami. Voyons comment ces moi contrôlent notre mental et nos sentiments. Ils s'en vont et arrivent d'autres moi. Le moi de la luxure, le moi de l'orgueil, le moi de la paresse, le moi de la gloutonnerie, l'envie, la peur, l'auto-importance, l'auto-suffisance. Nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas les saints que nous pensions être. Se rendre compte de ce que nous sommes vraiment est vraiment merveilleux, parce qu'alors, nous pouvons changer. Voilà. Nous avons terminé cette pratique que nous avons fait en étant bien relaxés. Mais nous devrons la faire quotidiennement et à chaque instant dans notre vie de tous les jours, au travail, dans la rue, chez nous, partout. Remercions notre esprit, notre Père intérieur, de nous avoir donné l'opportunité de faire cette pratique. Et lentement, nous ouvrons les yeux et bougeons doucement notre corps. Bien, mes amis, c'était la pratique de l'auto-observation faite en étant observateur et observé. Essayons de faire cette pratique toute notre vie et à chaque instant. Pour comprendre ce sujet à fond, nous vous suggérons l'étude du livre « Psychologie révolutionnaire ». Il faut lire tout le livre, mais vous pouvez commencer par le chapitre traitant de l'observateur et observé, pour mieux comprendre ce thème que nous venons d'étudier ensemble. Institut culturel Quetzalcoatl, www.samaelgnosis.net